Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asselet, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations, Daniel. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on est en pleine période de vacances. Alors c'est peut-être l'occasion pour nous de faire le point sur cette période de 6-7 mois, hein, sur cette saison finalement. Qu'est-ce que cette période nous a appris sur la situation géopolitique mondiale tout au long de l'année, Daniel?
Au fond, ces trois grandes zones de tension dont on parle depuis que nous avons ces conversations, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et la Chine, ces trois zones de tension, elles sont toujours en pleine effervescence et je dirais même qu'elles se sont largement aggravées. Donc ça, c'est le premier bilan qu'on peut tirer. Et puis surtout, au-delà des trois zones de tension, on sait qu'il y a le changement climatique. Et puis toutes ces pollutions diverses et les épidémies qui peuvent à nouveau nous tomber dessus, qui forment un peu le grand chapeau de la situation géopolitique. Et on voit bien, on l'avait dit déjà à plusieurs reprises, que plus ces tensions s'aggravent, plus les ressources en argent et en temps disponible des dirigeants diminue pour résoudre le problème climatique. Alors on est en plein dedans, hein. L'été, c'est l'été des incendies, des orages, etc. On les vit tous les jours et on est en train de comprendre que les milliards dont on a besoin pour faire face au changement climatique, on est en train de les investir dans l'armement. C'est ça peut-être le plus grave de tout et peut-être la vraie conclusion de la situation géopolitique. On n'en parle pas comme ça beaucoup dans les journaux et dans les radios, mais c'est ça le vrai problème. Alors, si on repart des zones de tension, faut toujours rappeler que la principale, c'est quand même l'opposition entre les Américains et la Chine. Ça, c'est peut-être pas le plus actif. La guerre en Ukraine, c'est plus grave. Ce qui se passe au Moyen-Orient, souvent, c'est beaucoup plus évident et nous saute aux yeux. Mais cette grande confrontation États-Unis-Chine, c'est la colonne vertébrale de toute la géopolitique et les deux pays le rappellent à chaque fois. Et malheureusement, ce qu'on voit, notamment à la suite du voyage de Blinken en Chine, c'est que cette confrontation, les deux parties sont au fond d'accord pour dire qu'elle va durer. On est en train de s'installer durablement dans cette confrontation. Alors, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que on confirme les limites de cette confrontation. Les deux parties, États-Unis et Chine, disent pas de guerre entre nous. Une guerre en Ukraine, ça suffit. Donc, pas de guerre sur Taïwan. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Faut la prendre comme ça. Et puis, pas de guerre froide. Mais en deçà de cette limite, on voit bien que les deux parties sont pas d'accord sur l'essentiel, à savoir quel type de confrontation va-t-on gérer. Les Occidentaux, on l'avait dit la semaine dernière, proposent, allez, on continue comme avant, mais on met des limites sur le plan technologique. Et les Chinois disent, vous pouvez pas faire ça. C'est tout ou rien. Et si vous nous mettez des barrières sur, par exemple, les semi-conducteurs, ben on considère qu'on est en guerre économique et que nous aussi, ben on va durcir nos positions et que ben, ça va vous coûter de plus en plus cher. C'est un petit peu l'idée et au fond, entre les deux, c'est une question de résilience qui est prêt à payer le plus longtemps, le plus cher possible. Et là, je ne sais pas qui est le plus résilient des deux. J'ai l'impression que de toute façon, tout le monde y perdra. Et puis un dernier mot pour rappeler à chaque fois qu'il y a un arbitre de cette confrontation qui sont les pays tiers. Alors les pays tiers, c'est les 180 pays émergents, les plus pauvres de la Terre, mais c'est aussi les alliés des Américains, les Européens, Israël, les Japonais, qui se voient perdants dans cette confrontation, qui se voient impactés, qui n'ont pas la même position que les Américains, qui sont plus souples. Hein. Et donc, on voit bien que la coalition occidentale, de ce point de vue-là, elle est un peu fragilisée et que peut-être que les pays tiers vont finir par imposer l'idée d'un compromis entre les deux, mais on ne le voit pas encore se dessiner.
Alors, Daniel, ce serait mentir de dire que l'actualité géopolitique mondiale, elle n'a pas été rythmée depuis février 2022 par la guerre en Ukraine. Que diriez-vous si on devait faire le point sur la guerre en
Alors,
Ukraine?
oui, c'est indispensable parce que c'est le point chaud. Il y a deux considérations sur l'Ukraine, militaire et stratégique. Sur le plan militaire, quand même, on est en train de voir que le fait que les deux grandes puissances, États-Unis et Chine, sont d'accord pour laisser ce conflit rester aussi régional que possible, et ils y sont arrivés. C'est quand même un grand succès, ça. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et sur le terrain, on est arrivé aussi à une stabilisation du front, où, au fond, les Russes campent sur les 20% de territoire ukrainien, la Crimée plus le Donbass, qu'ils ont conquis en 2014 et à nouveau en 2022, ils ont élargi. Et au fond, on voit bien que les Russes se contenteraient de ça. Et on voit bien que la contre-offensive ukrainienne, elle se heurte à ce mur. Cette ligne Maginot très forte, et là, on peut faire confiance aux Russes pour résister. Donc, ce qui se dessine quand même sur le terrain militaire, c'est un front qui se stabilise là où il est aujourd'hui, avec des pertes qui vont augmenter, et ça ressemble donc à la Première Guerre mondiale. Et sur le plan stratégique, on voit bien que, au fond, chacun des deux pays, Ukraine et Russie, sont prêts à rester longtemps en guerre. Donc, si vous voulez, voilà, on s'achemine vers une guerre longue, donc coûteuse, coûteuse pour les deux parties et coûteuse pour le monde entier. Voilà un petit peu ce qui se dessine sur l'Ukraine.
Alors Daniel, ça fait un petit temps qu'on n'a plus vraiment parlé du Moyen-Orient dans nos conversations qui ont été prises par bien d'autres actualités géopolitiques. Alors le Moyen-Orient, c'est tout de même l'une des trois zones de tension qu'on analyse dans nos conversations. Que dire si on devait faire le point là aussi?
D'abord que c'est une région qui prend une importance stratégique croissante aux yeux des Américains et aux yeux des Chinois. Donc ça, c'est la première chose. Le Moyen-Orient, c'est pas un peu de pétrole dans le désert, ça a complètement changé. Et ce nouveau Moyen-Orient qui a beaucoup changé continue de changer sous nos yeux. Donc c'est probablement la région qui change le plus. Et donc on va continuer dans nos conversations à en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'on a au Moyen-Orient, au fond, c'est deux choses très claires. C'est trois nations musulmanes différentes qui rivalisent pour le leadership. La nation arabe, la nation perse, la nation turque, qui sont à peu près d'égale importance en population et en puissance économique, qui ont été en rivalité très intense au moment de la guerre en Syrie. Et de la guerre au Yémen. Donc là, on pouvait dire qu'il y avait une exacerbation de la concurrence de ces trois nations. Ça allait très loin, mais on va, ça on le constate, vers une forme d'apaisement. En même temps que ces trois nations apparaissent comme des rivaux, le pétrole est en train de perdre son importance. Dans 20 ans, dans 30 ans, on parlera peut-être plus du pétrole du Moyen-Orient. Et donc, c'est le développement économique dans les nouvelles technologies qui sont importantes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que le paysage se dessine. Et puis, le deuxième grand changement au Moyen-Orient, c'est la politique des grandes puissances. C'est l'entrée de la Chine d'abord. Ça, c'est une nouveauté. La Chine est là, elle fait partie des acteurs du Moyen-Orient. Puis il y a un nouveau grand acteur, l'Inde, dont on parle de plus en plus et qui est un rival de la Chine et qui est un ami d'Israël. Et donc on voit bien que les grandes puissances réévaluent aussi leur vision du Moyen-Orient à l'image de la Chine. C'est la Chine qui donne le ton. La Chine arrive en disant, écoutez, on ne comprend pas grand-chose au Moyen-Orient, on ne veut pas prendre position pour les uns et pour les autres, on est l'ami de tous. Et on pousse au fond la paix, la prospérité pour la paix. Voilà, c'est un petit peu comme ça que se joue l'avenir. Et donc pour Israël, vous me posez la question qui sera de conclusion, cette situation elle est pas claire. Beaucoup de gens en Israël pensent que justement le fait que ces trois nations musulmanes se parlent désormais, que la Turquie, l'Arabie Saoudite et l'Iran se parlent, est une mauvaise chose pour Israël. Mais d'autres pensent le contraire. Moi, je pense que le contraire. Je pense que c'est pas si mal que tout le monde pense le contraire, parce que Israël a besoin lui aussi de paix. Et puis il y a cette question qu'on n'a pas encore abordée de la nouvelle intifada, parce que celle-là, elle est là, et on voit bien qu'elle est nouvelle, cette intifada, qu'elle est drivée, qu'elle est conduite par Iran, que ça c'est la deuxième arme après la bombe atomique pour l'Iran, c'est l'arme des factions palestiniennes. Les Iraniens alimentent en argent toutes les factions palestiniennes, et donc ceci implique l'impossibilité d'un dialogue avec les Palestiniens, puisque toutes les factions qui sont financées par l'Iran n'ont qu'un seul propos: On ne veut pas d'un État à côté d'Israël, on veut un État à la place d'Israël. Donc l'autorité palestinienne ne fait plus entendre sa voix. Abbas, il est inaudible et Israël fait des efforts désespérés pour le sauver, sauver le soldat Abbas, mais c'est très difficile. Donc si vous voulez, pour Israël, c'est une situation qui est en ce moment très compliquée à gérer, puisqu'il y a des affaires intérieures et des affaires extérieures, mais tout est lié, tout est lié. Tout est lié et elle a intérêt à ce que les Américains et les Chinois reparlent. Elle a intérêt à ce que la guerre en Ukraine cesse et elle a intérêt au fond, elle a toujours dit, à la paix. Israël, c'est un pays qui réclame la paix. Il faut jamais l'oublier. Et donc peut-être se dessine très vite un jour le camp de la paix contre le camp des va-t-en-guerre qui vont être de plus en plus restreints à l'Iran et à la Russie parce que même la Chine est un pays privé. Alors voilà un petit peu ce qui se dessine. C'est très schématique. Ça mérite évidemment d'être précisé, mais voilà, on peut se quitter aujourd'hui en disant que voilà, cette situation au Moyen-Orient, elle est en train d'évoluer très vite. Il faut la suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention.
Et on suivra tout ça, évidemment, avec vous, Daniel, dans nos conversations. Merci beaucoup, Daniel, pour cette analyse. Comme chaque fois, excellente semaine et à très bientôt.
Au revoir.